Philosophie première, par le père Philippe, à Saint-Joudard, le 2 mai 90.
Nous allons montrer que cette présence de ce qui est dans le je suis est pour nous l'expérience d'une manière particulière d'exister. Et qui ne nous conduit pas à une nouvelle interrogation. Vous comprenez? Le ceci conduit à une interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, on pourrait, je dis ça, c'est parce que certains l'ont fait. C'est pour ça qu'on doit montrer. Ce n'est pas exact. Je vais montrer le pourquoi. Toute expérience jusque maintenant, au plan philosophique, nous a conduit à une nouvelle induction. Alors, y a-t-il une nouvelle induction à partir de cette expérience très unique? Et ça, c'est très intéressant par rapport à toute la philosophie contemporaine. Je suis l'expérience interne et en même temps assumant le ceci est. Qui me fait comprendre que dans le je suis, j'atteins une réalité existante qui existe d'une manière singulière, tout à fait individuelle et personnelle, puisque j'ai conscience de ce je suis. J'ai donc une conscience intérieure de mon exister, une certaine lucidité dans mon exister. Ce n'est pas une opacité absolue. Puisque dans le je suis, il y a une connaissance. Et la connaissance porte sur moi, pas sur quelque chose extérieur. Elle porte sur moi. Et toutes mes activités sont toutes ramenées à ce je suis. Je mange, donc je suis. Je pense, donc je suis. Mais vous voyez, je ne le dis pas du tout comme Descartes. Je le dis comme une intégration. Le je suis intègre toutes mes activités. Et comme on est proche de certaines remarques phénoménologiques, là, et en même temps, comme on est loin, c'est ça qui est intéressant à voir. Je côtoie là quelque chose que, de fait, Husserl a bien montrer que le je suis est contemporain de toutes mes activités. Et pourtant, il ne peut s'identifier à aucune de ces activités. Mais j'essaie de comprendre toute la richesse du je suis. C'est bien évident que le je suis, pour moi, est donné dans toutes mes expériences. Mes expériences de vie végétative, mes expériences de vie sensible, passionnelle, mes expériences de vie intellectuelle, pensée, aimée, c'est toujours moi. Mais c'est le je suis. Moi présent à toutes ces activités, mais mon moi ne peut s'identifier à aucune de ces activités. Il est donc sous-jacent à ces activités sans être, et là je suis tout à fait d'accord, sans être le suppôt. Puisque il n'existe que dans ces activités. Pour moi, exister, c'est vivre. Et vivre, c'est exister. Donc le je suis est présent dans toutes mes activités. Il ne fait pas nombre avec ces activités, mais il est quelque chose de radical par rapport à toutes ces activités. Quelque chose de fondamental. Et il maintient, à travers toutes ces activités, une unité. Tout ça, je peux le saisir. Cette réflexion sur le je suis. Vous voyez, c'est la différence avec Descartes, c'est que le je suis est connu plus profondément que toutes ces activités. Puisque j'ai dit que ce le je suis implique ceci est. Donc il est connu non pas comme quelque chose de radical, séparé de ses activités, mais à l'intérieur de ses activités. Je ne peux pas séparer mon je suis de ma vie. Et c'est du reste pour ça que le je suis est connu d'une façon intérieure, immanente. Parce que le je suis vit. Je vis dans mon je suis. Et je vis là, dans ce qu'il a de plus profond. Donc, voyez, cet aspect que Husserl souligne très fort, Max Scheler aussi, que le je suis, le moi, j'aime mieux dire le je suis est présent, contemporain à toutes mes activités. Il est dans toutes ces activités. Il n'est pas séparé de ces activités. Et dans ce je suis, j'assume aussi ceci. Là, je crois qu'on peut facilement comprendre cela. Donc, je comprends que le je suis me donne une expérience d'une manière particulière d'exister. Comment j'existe? J'existe avec cette lucidité, cette conscience, cette capacité de m'orienter, cette capacité de sortir de moi, d'être en relation avec les autres, et en même temps de revenir. J'assume mon corps comme quelque chose qui pour moi n'est pas étranger. À la fois c'est mon avoir et en même temps c'est mon exister. Donc dans le je suis, la distinction être et avoir est dépassée. Comme la distinction intériorité-extériorité. Parce que je ne peux pas dire que bon, je suis mon avoir. Et je ne peux pas nier que je suis dans mon corps. Et je suis d'une certaine manière dans le monde. Mais dans le monde, je reconnais qu'il y a un dépassement de moi-même. Tandis que dans mon corps, il n'y a pas de dépassement de moi-même. C'est la très grosse différence. Mon corps est essentiel de mon je suis, tandis que l'univers dans lequel je suis, le petit monde dans lequel je suis, la communauté dans laquelle je suis, puisqu'on vit dans une petite communauté, n'est pas moi. S'il y a une catastrophe dans la communauté, j'en ressens les secousses. Mais ce n'est quand même pas moi. Tandis que si on me blesse violemment, on me coupe un bras, c'est quand même moi. Je ne dirais pas au second avoir. J'en ai un autre. Je me souviens, c'était l'expérience que me disait un cher ami professeur à Lausanne de philosophie qui avait le cancer. On lui a coupé le bras. Quand j'étais là, lui dire bonjour, pendant une heure, il m'a parlé du bras. L'analyse philosophique me met loin de toute cette pensée-là. Quand j'analyse ce qui est, en voyant la substance, en voyant l'être en acte, je suis très loin de la phénoménologie. Je la dépasse. J'en ai parfaitement conscience. Tandis qu'ici, quand j'ai cette expérience du je suis, et que j'essaie de comprendre cette expérience dans toute sa forme, le faire soi-même. Quand vous avez une heure de méditation métaphysique, notez tout ce que vous avez dans le je suis et faites ça pendant toute une semaine. C'est excellent. Pas plus qu'une heure. Je dirais que ce n'est pas beaucoup plus de temps. Et quand vous travaillez, je suis. Alors faites attention, quand vous travaillez, ne réfléchissez pas trop, surtout si vous êtes sur le réfléchissez pas trop sur le je suis, parce que vous risquerez à ce moment-là d'oublier la loi de la pesanteur. Alors, il faut dire je travaille. Et quand je travaille, je suis attentif à ce que je suis. À ce que je suis et à ce que je fais. Donc, mon attention est en profondeur et en extension. Mais alors, c'est bon de comprendre toute la complexité de ça. Je dis ça pour rejoindre la pensée moderne. Il n'y a pas beaucoup de lieux. Okay, dans notre philosophie, on la rejoint tout le temps. Mais il y a des lieux favoris. Et le je suis est un lieu favori. Alors, quand j'ai bien compris ça, je me pose la question. Est-ce que cette expérience du je suis impliquant ceci est, me fait poser une interrogation nouvelle qui va me conduire vers une nouvelle induction. Il faut que je sois lucide, hein. Il faut être très lucide dans sa philosophie. Et il faut qu'on puisse, surtout depuis Kant, puisse montrer que non, il n'y a pas d'issue. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Seule l'expérience externe me fait poser une interrogation extrinsèque à cette expérience et me conduit à l'induction. Donc, vous voyez bien, pour qu'il y ait induction, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que l'interrogation soit autre que mon expérience. Or, l'interrogation est une expérience interne. C'est une expérience interne, l'interrogation. Vous n'avez jamais, quand vous me dites que vous interrogez, je dis très bien, vous interrogez, vous me parlez, vous interrogez. J'ai l'expérience de votre interrogation parce que vous me le dites. Mais avant de me le dire, vous aviez posé au-dedans de vous-même l'interrogation. Donc, l'interrogation est une expérience interne de ma vie intellectuelle. Qu'est-ce ? Et cette interrogation est autre que l'expérience externe du « ceci est ». Qu'est-ce que c'est que l'être ? Voilà. Il y a un abîme entre « ceci est » et l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Un abîme que Heidegger a très très bien saisi. À tel point qu'il a dit, l'interrogation, c'est ce qu'il y a de plus grand en philosophie première, en ontologie fondamentale. Et on demeure dans l'interrogation. Alors ça, c'est très très intéressant pour nous à bien voir. Parce que Heidegger n'est pas un imbécile. Donc s'il dit ça, ça prouve qu'il y a un mur devant lequel il s'est trouvé et qu'il n'a pas su franchir. Alors que lorsque je pose l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je reviens à l'expérience. Heidegger ne revient pas à l'expérience. Pourquoi ? Et si je reviens à l'expérience, je peux par le fait même induire. Vous voyez ? Mettez entre parenthèses, quelles sont les conditions pour qu'il y ait induction ? Ça, c'est une question de critique. Mais il faut le comprendre, ça. Puisque nous avons vu jusque maintenant l'importance de l'induction. Et si je vais jusqu'au bout, je dis que c'est toute la différence entre une méthode de philosophie réaliste et une méthode de philosophie épistémologique. D'un côté, il y a induction, de l'autre, il n'y a pas induction. Et donc, quand je suis en face de mon expérience du je suis, je dois me poser la question, est-ce qu'au fond, je peux, à partir de là, poser une nouvelle induction ? Et j'aurai à ce moment-là la saisie d'un nouveau principe qui serait le principe de la personne. Je dis ça, c'est, j'ai vu cette question-là, c'est pour ça que je la donne. Parce que je n'aurais peut-être pas inventé. Ça m'a intéressé de voir ça. Et en lisant ça, j'ai dit non, il y a quelque chose qui est faux. Alors je veux saisir le pourquoi de cette erreur. Et en saisissant le pourquoi de cette erreur, je saisis le pourquoi de l'erreur de la fémologie. C'est ça qui m'intéresse. Puisque nous sommes là sur la crête, versant des Alpes d'un côté et de l'autre côté. D'un côté, il y a du soleil, et de l'autre côté, il y a du brouillard. Et je demeure dans le brouillard. Et de l'autre côté, au contraire, je vais vers le soleil. Donc c'est intéressant de voir ça. Je dis que le ceci est, expérience externe, me fait poser cette expérience interne, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et grâce à la conjonction de l'expérience interne et de l'interrogation, je peux avancer. Vous voyez donc que pour saisir l'être, il faut l'expérience interne et l'expérience externe. Pour saisir l'être dans ce qu'il est. Mais je le dis maintenant. Je ne l'ai pas dit au début, ce n'était pas la peine. Mais je le dis maintenant. Parce que je suis en face du je suis. Si au contraire je parle du je suis devant une expérience interne qui assume l'expérience externe. Je n'ai donc plus d'interrogation possible. Mon expérience interne ne me fait pas interroger. C'est pour ça que Merleau-Ponty dit que l'idéaliste n'interroge plus. Parce qu'il part d'une expérience interne. L'expérience interne est plus que l'interrogation. Comprenez, je reprends pour que vous saisissiez bien comment le ceci permet l'interrogation et comment le je suis intègre tout sans interrogation. Il n'ouvre pas l'interrogation. Il empêche l'interrogation. Ou si vous voulez, il peut mener à une interrogation qui ne me fait pas sortir du je suis. Le je suis implique et intègre l'interrogation, mais ne me met pas en face d'une interrogation qui me fait sortir de mon expérience. Le je suis intègre l'interrogation. Et si le je suis intègre l'interrogation, il ne me conduit pas. Je demeure dans le je suis, qui est plus que l'interrogation. Je vous ai dit tout à l'heure que le je suis est plus que toutes mes expériences intellectuelles, affectives, passionnelles. L'interrogation est une expérience interne de mon intelligence. Quand j'interroge ces je suis interrogeant. C'est quand même intéressant de voir que je suis interrogeant. Je suis dépassant toutes mes expériences externes et interrogeant. Et le petit coq. C'est ça, le petit coq, il dépasse la basse-cour. Et quand j'interroge, je dépasse la basse-cour. Je suis interrogeant. Et dans le je suis interrogeant, le je suis est plus qu'interrogeant. Donc, je ne sens. Quand même très étonnant, ça. Saisissez bien ça, parce que c'est là où vous saisissez l'impasse de la fémologie. Je dis bien l'impasse. On reste dans l'expérience et on décrit une expérience d'un vécu. Le vécu du je suis, qui est très riche. Moi, je suis tout à fait d'accord, très son sommet. Le plus grand vécu, c'est je suis. Et voyez le danger, hein. Le danger de considérer, mais oui, je veux ne sortir de rien d'autre. Si le je suis et reste sans intégrer ceci, je demeure dans une description du je suis et je n'en sors pas. Et je ne peux pas en sortir. Il n'y avait pas toute la métaphysique du ceci est avant de m'installer dans le je suis. Je resterai dans le je suis. Mais il faut toute la métaphysique du ceci est antérieure à cette expérience du je suis pour pouvoir sortir de cette expérience interne si riche et intégrer toute l'analyse métaphysique. Alors, à ce moment-là, je sors du je suis. Je peux en sortir. Et vous comprenez très bien quelle sera la grande sortie du je suis. Ce sera dire je suis, mais à côté de moi, il y a aussi quelqu'un qui peut dire la même chose. J'écoute le je suis de mon voisin. Et écoutant le je suis de mon voisin, je retourne à ceci est. Parce que le ceci, le je suis de mon voisin, il existe. Je vois donc que mon je suis n'est pas seul. Il est donc limité. Il est limité par quoi? Ceci est. Et je peux à partir de là me poser une nouvelle interrogation. Existe-t-il un je suis absolu? Au-delà de celui de mon voisin, et au-delà du mien. Et je comprends. Alors, la force du « je suis » qui m'est donnée dans une tradition religieuse judéo-chrétienne. Vous voyez, quand Dieu dit « je suis », Dieu se présente. Quand je dis je suis, je me présente à moi-même. Et si j'écoute le je suis de mon voisin se présente à moi et je me présente à lui. Je comprends alors, voyez, tout le rôle de la présence. Ce que Heidegger a mis très en lumière. Tout le rôle de la présence. C'est vrai. Dans le je suis, il y a tout un aspect de présence qui est très fort. Mais la présence, ça ne s'analyse pas. Je suis présent. Je suis présent à vous, vous êtes présent à moi. Vous existez, j'existe. Ainsi finit, Seigneur, ce sublime entretien. Quand on est à présent à quelqu'un et l'autre est présent, on n'a plus qu'à se taire. Il n'y a rien au-dessus de la présence. C'est un face à face. Mais c'est très important de saisir ça. De saisir que le je suis ne conduit pas à l'induction, mais à la description interne de tout ce qui est assumé dans mes expériences. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Si vous aviez des questions là-dessus, notez-les et on y reviendra. Parce que je crois que c'est capital. Il ne s'agit pas de dire l'affirmologie existe. Ah non, nous sommes aristotéliciens pour le fait même. On ne regarde pas l'affirmologie. Pas du tout. Il faut comprendre toute la grande séduction de l'affirmologie qui séduit tous les théologiens modernes. Ils sont tous séduits par ça. La séduction hegelienne, la séduction Hegel, Husserl, Heidegger. Mais trois séductions différentes. ces nuits étant armées par toute ma philosophie première. Mais une fois que j'ai toute ma philosophie première, je peux être séduit. Je peux me laisser prendre par cette séduction triple. Celle de Hegel, celle de Husserl, celle de Heidegger. Elles sont successives, c'est ça qui est très intéressant. Elles ne s'induisent pas l'une de l'autre. Elles s'autocritiquent. Husserl n'est pas hegelien. Heidegger n'est plus husserlien. Comme c'est très curieux, c'est très très curieux ça. Je dirais que c'est suffisant pour montrer que de fait on est dans une impasse philosophique. Parce que, de fait, si Hegel a des disciples, ils ne sont plus hegeliens. Si Husserl a des disciples, ils ne sont plus husserliens. Si Heidegger a des disciples, ils ne sont plus heideggeriens. Pourquoi ? Parce que le je suis est un absolu. Vous voyez, dans le je suis absolu de la fémologie, au fond, on rejoint que l'être et la pensée, ou plus exactement, la pensée et l'être ne font qu'un. Si la pensée et l'être ne font qu'un, le je suis est un absolu. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Si Hegel est Dieu, Husserl ne peut pas être un petit dieu à côté. Vous voyez, on a le génouïte. Husserl, Heidegger, Hegel, génouïte. Seul génouïde Heidegger, mais c'est pas une trinité. C'est une séparation, un isolement. Vous voyez, c'est très curieux. L'idéalisme avec Braunschweig, le néo-hegelianisme, c'est terminé par l'ipsolipsisme. C'est une expression très jolie, tu vois. L'ipsolipsisme, c'est-à-dire la solitude absolue de l'idéaliste. L'idéaliste meurt dans la solitude. On ne peut plus communiquer. L'ipsolipsisme. Il y a un ipsolipsisme hegelien, husserlien, heideggerien. Oui. Ça, je voudrais que vous le compreniez. Parce qu'une fois qu'on a compris, des heideggeriens, des husserliens, des hegeliens qui veulent faire une nouvelle philosophie, une nouvelle théologie. Alors, il faut saisir exactement la confusion, là où elle est. Cet étonnement, il est absorbé dans le je suis. Je sais que dans mon je suis unique. Autrement, c'est plus je suis. Oui, c'est ce que je vous disais au point de départ. Et j'y reviens parce que c'est très bien de poser la question. Vous voyez, la différence du je suis qui est unique. Autrement, c'est plus je suis. c'est le raisonnement réaliste. Je suis d'accord avec vous. Au plan réaliste, je considère que le ceci est une expérience autre que je suis. Mon expérience externe est première. C'est pas l'expérience du je suis qui est première. Alors, c'est très bien. Le ceci de l'autre, le je suis de l'autre, je l'atteins comme un ceci. L'amour est intégré dans le je suis. Je suis aimant. Et là, c'est ce que je vous disais hier, très rapidement, que l'être intègre l'expérience interne, l'expérience externe, mais pas l'amour. Et c'est pour ça que si vous avez une nouvelle métaphysique, alors, c'est l'éthique. Lévinas, c'est l'éthique. C'est pas la métaphysique. Il est séparé. C'est cette question de l'ordre entre les deux. Et alors, c'est intéressant parce que comme le je suis intègre l'expérience du ceci est, c'est pour ça qu'on est vraiment là en face de la crête. Quand je dis que j'intègre l'expérience du ceci est, je la supprime pas, mais je l'intègre. Le jour où je la simulerai, je l'intégrerai. sincère que la scolastique n'a jamais vue. Donc elle est incapable de répondre. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans la pure scolastique, j'ai vu des étudiants, je ne dis pas d'où ça venait, ça venait de certaines abbayes, étaient encore dans la pure scolastique. Il y avait un cours sur la fémologie, mais entrant à fond dedans. Il me disait, mais c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Alors j'ai simplement dit, vous, un contemplatif, vous désirez être un contemplatif, et vous ne comprenez pas que si vous entrez à fond, il n'y aura plus de contemplation. Elle m'a regardé, je lui ai dit, oui, parce qu'il y a le primat du moi, du je suis. S'il avait eu une contemplation assez forte, il aurait dit, c'est une impasse. La fémologie est une impasse. Très belle, étonnante, une prison d'or. Mais c'est une impasse, parce que je ne rejoins plus ceci. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas de... Vous voyez, je suis interrogeant. C'est ça qu'il faut analyser. Je suis interrogeant. Viens dans le « je suis interrogant ». Le je suis est plus qu'interrogeant. À ce point de vue-là, c'est l'inverse de Descartes, vous voyez. Parce que cogito ergo sum, je ne dis pas du tout, c'est pas cogito ergo sum, je suis interrogeant. Et le je suis est plus profond qu'interrogeant. Parce que je suis interrogeant, je suis mangeant, je suis travaillant, je suis. Je retombe dans la diversité. Donc le je suis maintient l'unité. Je crois que vous pouvez assez facilement comprendre que le « je suis » pris dans toute sa force. Boucle. Il n'y a plus d'interrogation. Mais j'assume ceci, ce qui me permettra de décrire le « je suis ». Ce que nous allons voir la fois prochaine. Mais je voulais avant vous montrer qu'il n'y a pas possibilité à partir de cette nouvelle expérience, une induction. Il n'y a pas d'induction. Si, cherchez bien, je voudrais bien que certaines objections très pertinentes pour bien voir qu'il n'y a pas d'induction à partir du je suis. Si le je suis devient premier. Mais il faut tous sentir cette séduction. Et si vous êtes un peu, connaître un peu la philosophie moderne, essayez de préciser les trois séductions différentes. Hegel, Husserl, Heidegger. Notre trinité moderne. Évidemment, Hegel est le père, ça c'est bien évident. S'il n'y avait pas eu Hegel, il n'y aurait pas eu Husserl. Et si Husserl n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu Heidegger. Donc Genuit. À l'aspiration d'amour. Lévinas voudrait l'aspiration d'amour. Vous voyez, il voudrait redécouvrir tout par le point de vue éthique. J'aime. Je t'aime. Alors, si j'aime,